Voyant que j'avais pris le siège en bois, il choisit celui qui était argenté, l'ancien fauteuil de son père. L'une des premières choses qui avait attiré mon attention chez Ulysse était sa façon de s'y laisser aller comme dans un lit. Télémaque était aussi droit qu'un élève qu'on appelle pour réciter. Je lui proposai du vin. Il refusa. Quand Ulysse n'était pas rentré après la guerre, expliqua-t-il, des prétendants avaient commencé à venir demander la main de Pénélope. Il s'agissait des descendants des familles les plus prospères d'Ithaque et des fils ambitieux des îles voisines, qui cherchaient une épouse et, éventuellement, un trône en prime. Bien qu'elle ait décliné leurs offres, ils se sont attardés au palais, année après année, mangeant nos réserves et exigeant que ma mère choisisse l'un d'eux. Elle leur a demandé de partir à de nombreuses reprises, mais ils refusaient. Sa voix brûlait toujours de la même colère. Ils voyaient bien que nous ne pouvions rien contre eux, un jeune homme et une femme seule. Lorsque je leur faisais des reproches, ils se contentaient de rire. J'avais moi-même connu ce genre d'homme. Ils avaient terminé dans ma porcherie. Sauf qu'ensuite, Ulysse était rentré, 10 ans après avoir quitté Troie en bateau et 7 ans après son départ d'Éa. Il s'est présenté déguisé en mendiant, ne dévoilant sa véritable identité qu'à quelques-uns d'entre nous. Nous avons mis au point un plan, une occasion de tester le courage des prétendants. Celui qui arriverait à corder le fameux arc d'Ulysse remporterait la main de ma mère. L'un après l'autre, les prétendants ont essayé et échoué. Finalement, mon père s'est avancé. D'un seul geste, il a cordé l'arc et planté une flèche dans la gorge du pire d'entre eux. J'avais eu peur de ces hommes pendant si longtemps, mais ils sont tombés devant lui comme l'herbe sous la faux. Il les a tous exterminés. L'homme de guerre, affûté par 20 ans de conflit, le meilleur des Grecs après Achille, maniant une fois de plus son arc. Bien sûr qu'il n'avait aucune chance. C'étaient des jeunes gens encore verts, trop bien nourris et gâtés. Une belle histoire, en somme, les prétendants paresseux et cruels assiégeant la fidèle épouse et menaçant le loyal héritier. Ils avaient mérité leur punition selon toutes les lois des dieux et des hommes, et Ulysse était venu l'exécuter telle la mort en personne, en héros bafoué qui rétablissait la balance. Même Télégonos aurait approuvé une telle morale, et malgré tout, bizarrement, je trouvais cette vision nauséeuse, me représenter Ulysse embourbé jusqu'au cou dans ce palais dont il avait si longtemps rêvé. Le lendemain, les pères des prétendants sont venus. C'étaient tous des hommes de l'île. Nicanor, qui possédait le plus gros troupeau de chèvres, Agathon, au bâton en pin sculpté, Eupithès, qui me laissait autrefois cueillir les poires de son verger. C'est lui qui nous a parlé. Nos fils étaient invités dans votre maison et vous les avez massacrés. Nous demandons réparation. Vos fils étaient des voleurs malfaisants, a riposté mon père. D'un geste, il a intimé à mon grand-père de lancer son javelot. Le visage de Pitès a explosé, éclaboussant la poussière de morceaux de cervelle. Mon père nous a ordonné de tuer les autres, mais Athéna est descendue des cieux. Athéna était donc enfin revenue à lui. Elle a déclaré que la querelle était terminée, que les prétendants avaient payé le juste prix et qu'il n'y aurait plus de bain de sang. Le lendemain, les pères des soldats d'Ulysse ont tout de même commencé à affluer. « Où sont nos fils ? » ont-ils demandé. « Il y a 20 ans que nous attendons de les accueillir chez nous à leur retour de Troie. » Je connaissais les histoires qu'Ulysse avait dû être obligé de leur raconter. « Ton fils a été dévoré par un cyclope. Ton fils a été avalé par Scylla. Ton fils a été mis en pièces par des cannibales. » Ton fils s'est saoulé et il est tombé d'un toit. Son bateau a été coulé par des pirates pendant que je prenais la fuite. Ton père avait encore un équipage à son arrivée sur mon île. Aucun d'entre eux n'a donc survécu ? Il hésita. Tu n'es pas au courant ? Au courant de quoi ? Cependant, au fur et à mesure que je parlais, ma bouche devint aussi sèche que les sables jaunes d'Éa. Durant l'enfance tumultueuse de Télégonos, je n'avais pas eu le temps de m'inquiéter pour ce que je ne pouvais pas contrôler. À présent, je me souvins de la prophétie de Tirésias aussi clairement que lorsqu'Ulysse l'avait annoncée. « Le bétail, » repris-je. « Ils ont mangé le bétail. » Il acquiesça. Pendant 1 an, ces hommes avides et imprudents avaient vécu avec moi. Je les avais nourris, J'avais soigné leurs maladies et leurs cicatrices, pris plaisir à les voir guérir. Et ils avaient été effacés de la surface de la terre comme s'ils n'avaient jamais vécu. Raconte-moi ce qui s'est passé.
Au moment où leur navire longeait Trinakier, une tempête les a forcés à accoster. Mon père a monté la garde pendant des jours, mais la tempête s'éternisait, les obligeant à rester coincés là-bas, et il a fini par s'endormir.
Toujours la même histoire.
Pendant son sommeil, ces hommes ont tué quelques vaches. Les deux nymphes qui gardent l'île en ont été témoins et sont allés trouver...
Il hésita de nouveau. Je le vis considérer ces mots. Ton père.
Le seigneur Hélios. Quand Ulysse a appareillé, le bateau a été mis en pièces. Tous les hommes se sont noyés.
J'imaginais très bien mes demi-sœurs avec leurs longs cheveux dorés et leurs paupières peintes, prostrées sur leurs jolis genoux.
« Oh, père, ce n'était pas notre faute. Punis-les !»
Comme s'il avait jamais eu besoin d'être encouragé. Hélios et sa colère sans fin.
Je sentis le regard de Télémaque posé sur moi. Je m'obligeai à lever ma coupe et à boire. « Continue. Leurs pères sont venus. »
« Leurs pères sont venus, et en apprenant la mort de leur fils, ils ont exigé leur part du trésor gagné à Troie. Ulysse a eu beau leur expliquer que tout était au fond de la mer, ils n'ont pas lâché prise. » Ils sont revenus à la charge sans relâche, et chaque fois, la rage de mon père grandissait. Il a roué Nicanor de coups de bâton sur les épaules. Quant à Clétos, il l'a poussé par terre. Tu veux vraiment savoir ce qu'il est advenu de ton fils? C'était un imbécile et un vantard. Il était cupide, stupide, et il a désobéi aux dieux.
Ce fut un choc d'apprendre que des mots aussi crus étaient sortis de la bouche d'Ulysse. Une partie de moi avait envie de protester, de dire que cela ne lui ressemblait pas. Mais combien de fois l'avais-je entendu louer des manœuvres de ce genre? La seule différence était la manière dont Télémaque les racontait, sans fioriture. J'imaginais Ulysse soupirant en tendant ses mains vides. «
Tel est le destin d'un capitaine, telle est la folie de l'humanité. N'est-ce pas notre tragédie, à nous autres, humains, qu'il faille battre certains hommes comme plâtre pour leur faire entendre raison ?» Ensuite, bien qu'il soit resté à distance, mon père a continué à broyer du noir. Il était sûr qu'il complotait contre lui. Il voulait poster des sentinelles tout autour du palais, jour et nuit. Il parlait d'entraîner des chiens, de creuser des tranchées pour attraper nos ennemis dans l'obscurité. Il avait dessiné des plans pour construire une grande palissade, comme si nous étions dans un camp de guerre. J'aurais dû dire quelque chose à ce moment-là, mais j'espérais encore que ça passerait.
Et ta mère? Qu'en pensait-elle?
Je ne prétends pas savoir ce que pense ma mère.
Sa voix s'était durcie. Je me souvins qu'il ne s'était pas adressé la parole de la soirée. Elle t'a élevée seule. Tu dois bien en avoir une idée.
Personne ne peut deviner ce que va faire ma mère, jusqu'à ce qu'elle l'ait fait.
Sa voix n'était pas seulement devenue dure, elle était amère. J'attendis. Je commençais à comprendre que c'était le silence qui l'obligeait le mieux à sortir de ses retranchements.
Il y a eu une époque où nous partagions tous nos secrets. Chaque soir, nous préparions ensemble notre stratégie vis-à-vis des prétendants, pour décider si elle devait descendre ou non, leur parler avec hauteur ou se montrer conciliante, si je devais sortir le bon vin ou si nous devions simuler un affrontement quelconque pour eux. Quand j'étais enfant, nous passions toutes nos journées ensemble. Elle m'emmenait nager, et ensuite nous nous asseyions sous un arbre afin d'observer les habitants d'Ithaque qui vaquaient à leurs occupations. Elle connaissait l'histoire de chaque passant, et elle me la racontait, expliquant qu'on doit comprendre les gens si l'on doit les gouverner.
Le regard de Télémaque était fixé quelque part, dans le vide. La lumière du feu soulignait une bosse que je n'avais pas encore remarquée sur son nez, une ancienne fracture.
Dès que je m'inquiétais pour la sécurité de mon père, elle secouait la tête. « Ne crains rien pour lui, il est trop malin pour se faire tuer parce qu'il connaît toutes les ruses du cœur des hommes et la manière de les retourner à son avantage. Il survivra à la guerre et il reviendra à la maison. » Et ça me réconfortait, car ma mère disait toujours vrai.
Un arc fait main, c'est ainsi que l'avait appelé Ulysse, une étoile fixe, une femme qui se connaissait elle-même.
Un jour, Je lui ai demandé comment elle se débrouillait pour comprendre le monde aussi clairement. Elle m'a répondu que la clé était de rester complètement immobile et de ne pas trahir ses émotions pour permettre aux autres de se dévoiler. Elle a essayé de m'apprendre, tout comme elle m'avait appris la natation, mais je la faisais rire. Tu es à peu près aussi discret qu'un bœuf caché sur une plage. Télémaque n'était pas quelqu'un de secret, en effet. La souffrance se dessinait sur ses traits, clairs et précises. J'avais pitié de lui, mais pour être honnête, je l'enviais aussi. Télégonos et moi n'avions jamais été en position de perdre une telle intimité. Ensuite, mon père est revenu et tout a été effacé. Il ressemblait à un orage d'été dont la foudre illumine le ciel pâle. En sa présence, tout le reste s'estompait. Je connaissais cet aspect d'Ulysse. Je l'avais vu à l'œuvre au quotidien pendant un an. Le jour où il a battu Nicanor, je suis allée la trouver en lui disant « J'ai peur qu'il n'aille trop loin ». Elle n'a même pas levé les yeux de son métier à tisser. Tout ce qu'elle a répondu, c'était que nous devions lui laisser le temps. Et le temps a-t-il aidé? Non. Quand mon grand-père est mort, mon père a rejeté la faute sur Nicanor sans qu'on sache pourquoi. Il l'a tué avec son fameux arc avant de jeter son corps en pâture aux oiseaux sur la plage. Il ne parlait plus que de conspiration, des hommes qui levaient les armes contre lui et des serviteurs complices de ses traîtrises. La nuit, il faisait les 100 pas devant l'âtre, en rabâchant toujours les mêmes mots, garde et espion, mesure et contre-mesure. Ces traîtrises existaient-elles? Une révolte à Ithaque? Il secoua la tête. Nous n'avons pas de temps pour ça. La rébellion est réservée aux îles prospères ou à celles qui sont tombées si bas qu'elles n'ont pas d'autre choix. À ce stade, j'étais en colère. Je lui ai répété qu'il n'y avait pas de conspiration, qu'il n'y en avait jamais eu, et qu'il ferait mieux de dire quelques paroles aimables à nos hommes plutôt que d'envisager les différentes manières de les tuer. Il m'a souri. « Sais-tu qu'Achille est parti à la guerre à 17 ans, et il n'était pas le plus jeune à 3 ?» Nos troupes comptaient des garçons de 13 ou 14 ans qui ont tous fait notre fierté sur le champ de bataille. Je me suis rendu compte que le courage n'est pas une question d'âge, mais plutôt de tempérament. Il n'imitait pas son père, pas exactement. Néanmoins, le rythme de sa voix reproduisait le ton de confidence léger et trompeur d'Ulysse. Ce qu'il voulait dire, bien sûr, c'était que je l'avais déshonoré, que j'étais un lâche, que j'aurais dû combattre les prétendants tout seul. N'avais-je pas 15 ans quand le premier était arrivé? J'aurais dû être capable de tirer avec son fameux arc, et pas seulement de le corder. À 3, je n'aurais pas tenu plus d'une journée. Je me représentais très bien la scène. Le foyer enfumé et l'arôme âcre du bronze ancien, le mou nouveau de l'huile d'olive. Et Ulysse, couvrant son fils de honte avec une habileté consommée. Je lui ai rappelé que nous étions à Ithaque maintenant, que la guerre était terminée et que tout le monde le savait, sauf lui. Ça l'a rendu fou. Il ne souriait plus du tout. Il s'est exclamé « Tu es un traître. Tu as envie que je meure pour pouvoir prendre mon trône. Tu veux peut-être même accélérer les choses. » Le ton de Télémaque était calme, presque neutre, mais les jointures de ses mains agrippées à l'accoudoir avaient blanchi. Je lui ai rétorqué que c'était lui qui avait attiré la honte sur notre maison, qu'il pouvait se vanter tout son sou à propos de la guerre, mais qu'il n'avait rien ramené d'autre que la mort, que ses mains ne seraient plus jamais propres, pas plus que les miennes, parce que je l'avais suivi dans cette mare de sang et que je le regretterais pour le restant de mes jours. Ensuite, c'était fini. J'ai été écartée des conseils, bannie de la grande salle. Je l'ai entendu crier à ma mère qu'elle avait élevé une vipère. La pièce était silencieuse. Je sentais l'endroit où la chaleur du feu avait tiédi avant de mourir dans l'air hivernal. La vérité, c'est que je crois qu'il aurait préféré que je sois un traître. Alors au moins j'aurais été un fils qu'il aurait pu comprendre. Pendant qu'il parlait, je l'avais détaillé, à la recherche des tics d'Ulysse, ses techniques aussi inséparables de lui que les vagues de l'océan. Les poses et les sourires, la voix sèche et les gestes d'autodépréciation, tous utilisés à l'encontre de son auditeur pour convaincre, taquiner et surtout pour atténuer ses propos.
je n'en avais trouvé aucun. Télémaque encaissait directement les coups. Après ça, je suis allée trouver ma mère, mais il avait posté des gardes pour m'empêcher d'entrer. Et quand j'ai crié par-dessus leur tête, elle m'a demandé d'être patient et de ne pas le provoquer. La seule personne qui m'adressait encore la parole était mon ancienne nourrice, Euryclée, qui avait aussi été celle de mon père. Assis près du feu, nous mâchions notre poisson jusqu'à le réduire en bouillie. « Il n'a pas toujours été ainsi », me répétait-elle, comme si cela changeait quelque chose. Cet homme en rage était le seul père que j'avais connu. Bien qu'elle soit morte peu après, Ulysse n'est pas resté pour voir son bûcher brûler, sous prétexte qu'il était fatigué de vivre au milieu des cendres. Il a pris la mer sur un petit esquif et un mois plus tard, il est revenu avec des ceinturons en or, des coupes et un nouveau plastron de cuirasse, ainsi que des taches de sang séchées sur ses vêtements. Je ne l'avais jamais vu aussi heureux. Seulement, ça n'a pas duré. Le lendemain matin, il était déjà en train d'éructer à propos de la fumée dans la grande salle et de la maladresse des serviteurs. Je l'avais déjà vu dans des humeurs similaires. Chaque petit défaut mesquin du monde le mettait en rage. Le gaspillage, la stupidité et la lenteur des hommes, ainsi que tous les petits travers irritants de la nature, les mouches piqueuses, le bois qui se déforme et les bruyères qui déchiraient sa cape. Lorsqu'il vivait avec moi, j'avais atténué leur effet en l'enveloppant de ma magie et de ma divinité. Peut-être était-ce pour cette raison qu'il était si heureux. Une idylle, voilà comment j'avais appelé notre temps ensemble. Mais « illusion » était sans doute un terme plus approprié. Par la suite, il est parti en raid tous les mois. Les rumeurs n'ont pas tardé à arriver, à peine croyables. Il avait pris une nouvelle femme, la reine d'un royaume dans les terres. Là-bas, il régnait dans la joie au milieu des vaches et de l'orge. Coiffé d'un bandeau d'or, il festoyait jusqu'à l'aube en mangeant des sangliers et en rugissant de rire. Il avait eu un autre fils. Ses yeux étaient ceux d'Ulysse. La forme, la couleur et même l'intensité. En revanche, son expression était différente. Le regard d'Ulysse était toujours expansif et enjôleur. Celui de Télémaque, entièrement tourné vers l'intérieur. Y avait-il un peu de vérité là-dedans? Il haussa les épaules, puis les laissa retomber. Qui pourrait le dire? Peut-être a-t-il créé ces rumeurs lui-même pour nous blesser. J'ai annoncé à ma mère que les chèvres avaient besoin de davantage d'attention et je suis allée vivre dans une cabane vide, sur la colline. Mon père pouvait comploter et enrager à sa guise, je n'étais pas obligée d'en être témoin. Ma mère pouvait se contenter de manger un simple bout de fromage par jour et laisser ses yeux devenir gris de fatigue devant son métier, je n'avais pas à en être témoin non plus. Dans la cheminée, les bûches s'étaient consumées. Leurs restes brillaient d'un éclat blanchâtre, saupoudré de cendres. Et c'est au cours de cette période de malheur que ton fils s'est présenté. Éclatant comme le lever du soleil, doux comme un fruit mûr. Il portait ce javelot bizarre et des cadeaux pour nous tous. Des coupes en argent, des capes et de l'or. Il avait un beau visage et son espoir crépitait aussi fort qu'une flamme. J'avais envie de le secouer. Je me suis dit... Quand mon père reviendra, ce garçon comprendra que la vie ne ressemble pas aux chansons des bardes. Et c'est bien ce qui s'est passé. La lune s'était éloignée de la fenêtre, baignant la pièce d'ombre. Télémaque avait les mains posées sur ses genoux. Tu essayais de l'aider. C'est pour cette raison que tu es descendu sur la plage. Il continua à fixer les cendres dans la cheminée. Finalement, il n'a pas eu besoin de moi. J'avais imaginé Télémaque si souvent, en garçon silencieux qui guettait le retour de son père, en adolescent criant vengeance au-delà des terres et des mers. À présent, c'était juste un homme à la voix terne et fatiguée. Il ressemblait à ces messagers qui parcourent des kilomètres pour apporter des nouvelles au roi. Ils transmettent leurs messages en haletant, puis s'effondrent et ne se relèvent pas. Sans réfléchir, je tendis la main pour la poser sur son bras. Tu n'es pas défini par tes origines. Ne le laisse pas t'entraîner dans sa chute. Il contempla mes doigts un moment, puis leva les yeux vers moi. Je te fais pitié. Il ne faut pas. Mon père a menti sur beaucoup de choses, mais il avait raison de me traiter de lâche. Je l'ai laissé être tel qu'il était, année après année,
s'emporter et battre les domestiques, crier après ma mère et réduire la maison en cendres. Il m'a demandé de l'aider à tuer les prétendants, et je l'ai fait. Ensuite, il m'a demandé de tuer tous les hommes qui les avaient aidés, et je me suis aussi exécutée. Et puis il m'a ordonné de rassembler toutes les esclaves qui avaient couché avec l'un d'entre eux pour les forcer à nettoyer le sol trempé de sang, et de les tuer aussi dès qu'elles auraient terminé. Cette révélation me choqua. Ces filles n'avaient pas le choix. Ulysse devait le savoir. Il m'a demandé de les découper en morceaux comme des animaux. Il soutint mon regard. « Tu ne le crois pas ?» Je n'avais pas qu'une histoire semblable en tête, mais des dizaines. Ulysse avait toujours adoré ses vengeances. Il avait toujours haï ceux qu'il considérait comme des traîtres. « As-tu obéi ?» « Non. Je les ai pendus à la place. J'ai trouvé 12 cordes et noué 12 nœuds. » Chaque mot ressemblait à une lame qu'il enfoncerait dans sa propre chair. Je n'avais jamais assisté à une pendaison, mais je me suis souvenu de toutes ces histoires de mon enfance où les femmes se pendaient. J'avais en tête que c'était une mort plus correcte, plus clémente. J'aurais mieux fait de me servir d'une épée. Je n'ai jamais vu d'agonie aussi affreuse et prolongée. Je verrai leurs pieds se balancer en l'air pour le restant de mes jours. Bonne nuit, dame Circé. » Il ramassa son couteau sur la table et partit.